Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin les auteurs chez Gallimard dans la collection Tract, les auteurs de Victimes et Après. Questions et réactions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Arthur Desnouveaux, Antoine Garapon, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Arthur Desnouveaux, vous êtes survivant de l'attentat du Bataclan. Vous présidez l'association Life for Paris qui fédère les victimes des attentats du 13 novembre. Antoine Garapon, vous êtes magistrat, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice. Votre texte est très fort. C'est une réflexion et aussi une méditation sur ce qu'est une victime d'attentat, mais pas seulement. Vous faites parler l'étymologie, la philosophie, le droit, mais vous ouvrez également des perspectives, je vais les appeler métaphysiques et éthiques, car les victimes ne témoignent pas que d'elles-mêmes. Nous avons tous, comme êtres humains, une expérience commune à inventer et à partager. On va y venir longuement dans quelques instants. Mais une question pour commencer, Arthur Desnouveaux. Nous sommes le 11 novembre. Dans deux jours, ce sera le quatrième anniversaire, entre guillemets, des attentats du 13 novembre. Est-ce que cette date réveille toujours chez vous, Arthur Desnouveaux, le souvenir de la tragédie?
Ah, bien sûr, le mois de novembre qui approche est à chaque fois un mois de souffrance, un mois de questionnement. La météo vient nous rappeler que il y a 4 ans, on a souffert. Je pense que pour toute la communauté des victimes des attentats, et pas uniquement ceux du 13 novembre d'ailleurs, parce que tous les attentats réveillent des douleurs chez les victimes, c'est une période très difficile. Le 13 novembre même sera évidemment une journée très particulière.
Arthur Desnouveaux, j'imagine quand les gens vous parlent et apprennent que vous êtes un rescapé du Bataclan, j'imagine que les gens changent de ton, changent de tête et vous regardent peut-être différemment. Or, vous commencez ce texte très fort avec cette première phrase « Les victimes suscitent notre pitié, elles méritent mieux que cela ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que regarder les victimes uniquement par l'angle de la pitié, c'est vraiment les regarder comme étant diminuées. Et ce que le texte essaye de montrer, et j'espère qu'on y arrive, c'est quand même que les victimes, même si elles ont subi quelque chose de très fort, même si elles ont été diminuées un temps, ont un chemin devant elles qui va leur permettre de se reconstruire. Et sûrement, j'allais dire de donner l'exemple, c'est un peu fort, mais de montrer à toute la société qu'on peut se remettre de quelque chose d'aussi extrême qu'un attentat. Et qu'en fait, si la pitié est notre réaction naturelle, la discussion est sûrement ce qui devrait plutôt s'engager avec une victime.
C'est ça le cœur de ce texte, Antoine Garapon, c'est que les victimes refusent d'être au fond assignées au statut de victime.
C'est cela, et d'échapper à une violence symbolique qui est au cœur de la victimité. On joue sur l'étymologie qui nous rappelle de manière tout à fait surprenante, voire scandaleuse, que la victime est liée au sacrifice. Et dans le fond, il faut commencer par travailler, si on veut aider les victimes, il faut travailler sur notre regard. Vous parlez de l'œil qu'on porte sur les victimes. Travailler, on dirait les psychanalystes, sur le transfert. On transfère beaucoup de choses sur les victimes. D'abord, on est nous, ceux qui n'ont pas été victimes, contents de ne l'avoir pas aidé. Et puis, en plus, il y a cette ambivalence, on pourrait dire. Et notre idée avec Arthur Desnouveaux dans ce texte d'intervention, c'est dire précisément, il faut travailler aussi notre ambivalence sociale à l'égard des victimes pour leur permettre.
Comment vous l'expliquez, cette ambivalence que vous expliquez? Vous dites, on est traversé par les non-victimes qui regardent les victimes sont traversés par un sentiment trouble, un peu moche d'ailleurs, un peu hypocrite de dire, ouais, au fond, heureusement, nous, on n'est pas dans le groupe maudit.
Oui, et d'ailleurs, la victime a quelque chose à voir avec le sacré, avec la sacralisation. Et dans nos sociétés en perte de récit, en trouble et en transformation profonde, paradoxalement, la victime est une manière de reconstituer subsidiairement une communauté politique. C'est donc un enjeu. La souffrance des victimes est un enjeu politique, c'est un enjeu professionnel, et on l'a décrit à quel point on peut tomber dans ce qu'on appellerait un victim business qui ne va pas dans le sens du soutien aux victimes.
On va y venir. Entrons dans l'analyse, parce que vous analysez de manière extrêmement fine comment en quelques secondes quelqu'un bascule d'un statut normal, on va dire. Vous, Arthur Desnouveaux, vous êtes diplômé de Polytechnique, on ne sait pas si vous êtes amoureux ou pas, papa ou non, si vous aimez votre job ou s'il ne vous plaît pas. Eh bien, en quelques secondes, vous n'êtes plus ça. Vous devenez une victime et le statut écrase tout. Vous dites que le premier sentiment éprouvé, c'est celui de la séparation, de l'arrachement à la vie d'avant et à la communauté des égaux et des anonymes, en quelque sorte. Les terroristes vous ont volé ça, votre appartenance à la société, dans ce cas-là de banal.
Bien sûr, et c'est leur but. C'est ce qu'on dit, c'est qu'en fait, le terroriste est là pour vous séparer à la fois de ce que vous étiez avant et de vous séparer des autres et de fragmenter la société au maximum. C'est un des choses très particulières du terrorisme islamiste actuel. C'est que le but, c'est sûrement pas de créer une guerre civile, c'est de créer une guerre de la civilité. C'est chaque individu se retrouve isolé du groupe social qui est plus aucun tissu de société. Et on voit que c'est là-dessus qu'ils ont réussi à prospérer, notamment dans le nord de la Syrie. Quand il y a plus d'État, plus de société, c'est là que le terrorisme a gagné. Et donc, si on prend ça à un niveau individuel, oui, moi je me suis vraiment pris l'histoire avec un grand H dans ma petite histoire. Et à partir de là, c'est ce que disait Léa Salamé tout à l'heure, c'est un peu comme si j'avais une marque sur moi, comme si j'étais marqué par le fait d'avoir été attaqué, d'avoir été choisi, et de faire partie de ce groupe maudit.
Et créer une association pour fédérer victimes rescapées de cette journée d'attentat, est-ce que c'est déjà une manière de dire nous, de redire nous et sortir de ce que on vient de dire ?
Exactement.
Je souffre, j'ai été arraché.
Exactement. Une communauté telle qu'une association de victimes, c'est une communauté, c'est une société. C'est une société de taille réduite dont l'objectif, en fait, est de recréer du lien social et à terme de se dissoudre pour dire, en fait, le lien social, on va le retrouver dans la société dans son entier. Mais la première chose dont ont besoin les victimes de terrorisme, c'est de se retrouver dans un endroit où elles se sentent à la fois en sécurité, mais où leurs discussions sont simples. Et en fait, parler à une autre victime de terrorisme, quand on est victime soi-même, c'est vraiment parler comme à un cousin éloigné.
Mais ils ont réussi, les terroristes, concernant, par exemple, sur ce que vous dénoncez là. Est-ce que vous, par rapport à vous-même, vous vous voyez, quand vous vous regardez, quand vous pensez à vous, vous pensez à vous comme d'abord comme victime, la chose qui a écrasé tout le reste, ou non, vous pensez à vous en mon diplôme de polytechnique, est-ce que je suis amoureux ou pas, est-ce que mon job me plaît ou pas, est-ce que vous arrivez, c'est où on en est 4 ans après?
Alors je pense quand même plus à ma femme et à ma fille qu'à mon diplôme de polytechnique, mais 4 ans après, dans mon cas personnel, je me pense victime, mais pas que. Et notamment grâce à cette association, grâce à ce livre. Mais il a quand même fallu une bonne année et demie de psychothérapie intense, et avec malheureusement l'aide d'anxiolytique, pour réussir à justement, en regardant le miroir, pas me dire, en fait, on a imposé sur mon image quelque chose dont je veux pas. Maintenant, j'essaie de transformer ça en autre chose de choisi et de volontaire, mais il y avait vraiment une irruption dans ma vie que j'arrivais pas à dégager avant de faire un énorme travail de réflexion sur moi-même.
Avant d'en venir à cet aspect éthique au sens beau, fort et noble, quelques questions sur ce qui va se jouer, Antoine Garapon, et ce qui se joue dans un procès. Quand il y a un attentat du type de celui dont on parle, du 13 novembre, à quoi sert le procès après pour les victimes ? La question peut vous sembler idiote formulée comme ça, mais il se joue quelque chose de très important. Quoi ?
Pas du tout. Il se joue beaucoup de choses. Il y a des enjeux juridiques, de preuves, pour ensuite statuer sur la responsabilité des uns et des autres. Mais c'est beaucoup plus profond, un procès. Un procès, c'est un convertisseur de temps. C'est-à-dire, on termine le temps d'attente, le temps de la douleur, le temps vif, pour le convertir non pas dans un refoulement, mais dans un temps où la mémoire est ouverte. Et donc, on permet d'ouvrir une autre histoire, quelque chose d'autre. Le procès, on a beaucoup insisté sur cette idée que la victime, elle est victime d'une substitution. Les victimes du 13 novembre n'avaient rien demandé à personne. Elles ont été choisies pour représenter un mode de vie, des mœurs que les terroristes détestent. Et donc le procès, c'est une autre substitution. Il y a un événement, une mauvaise rencontre, un crime, et bien il y aura une nouvelle rencontre sociale apaisée, conforme à nos valeurs, qui vont nous permettre de sortir de cet événement. C'est très difficile de dépasser un événement. Et on peut le faire qu'en créant un autre événement, un événement positif, un événement de la civilité, c'est précisément le procès.
Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot civilité ?
Civilité, je mets... D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé l'appel de Camus pour une trêve civile. La civilité, c'est précisément l'innocence qui est le propre de tous les citoyens. Il y a l'une des grandes conquêtes de la Révolution, on le sait pas d'ailleurs, c'est la présomption d'innocence, c'est-à-dire le fait de pouvoir vaquer à ses occupations, de pouvoir échanger. Le crime terroriste est un crime contre l'échange social. C'est un crime qui isole, qui empêche de communiquer. C'est pas du tout par hasard qu'ils se sont attaqués à un immeuble comme le World Trade Center qui incarnait les échanges mondiaux, les échanges commerciaux. Le café est, manifeste un échange. La partie de football est un autre, une autre forme d'échange. Et c'est cela qu'ils ont dans le viseur, c'est réduire les gens à la solitude, à la désolation. Et donc le procès est une mise en scène en quelque sorte, c'est une cérémonie de parole.
Ça c'est pour le procès, et puis vous vous interrogez, on comprend que dans ce texte vous vous interrogez à 360 degrés sur la notion de victime, sans tabou, sans interdit, vous osez aussi dire les choses, notamment la question de l'indemnisation. Vous parlez du victim business tout à l'heure. L'indemnisation des victimes, vous dites c'est à la fois la reconnaissance d'une solidarité, voire d'une responsabilité de la part de la société, c'est aussi une arithmétique impossible. Combien vaut une vie? Combien vaut la vie d'un proche? Comment l'estimer?
C'est toute la tâche du droit, c'est de mettre des mots à la place de la violence, de l'argent à la place de la souffrance. Et c'est une tâche à la fois nécessaire et impossible. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec la déclaration des évêques concernant l'indemnisation automatique. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe.
Des victimes de pédophilie.
Des victimes de pédophilie. Je crois que l'argent est nécessaire. Il est nécessaire. Il peut opérer à une transformation chez la victime et dans la société à condition qu'il soit précédé d'une parole de reconnaissance et pas de commisération, de reconnaissance.
Oui, mais vous allez même plus loin, vous écrivez cette phrase, je vais la lire. Parfois la générosité de l'État est précipitée. Une somme reçue peut-être trop rapidement et sans raison peut perturber les victimes, voire les culpabiliser d'avoir survécu.
Évidemment, et c'est là que je rejoins Antoine sur l'erreur que vient de faire la commission des évêques, c'est que l'important dans l'indemnisation, c'est l'individualisation. C'est vraiment de dire à la personne, vous avez subi telle chose, l'État considère que, en étant victime de terrorisme, vous avez, pardonnez-moi l'expression, pris une balle pour nous tous. Donc, nous vous devons une réparation. Nous pensons que, financièrement, cette réparation qui ne couvrira pas tout a telle valeur ou que telle provision a telle valeur. C'est pas le courrier qu'on reçoit. Le courrier qu'on reçoit, c'est juste, vous avez été victime de terrorisme. Nous en sommes infiniment désolés. Voilà 10 000 euros. Bon. C'est très court. C'est pas ça qui va vous permettre de commencer un processus de, en fait, pourquoi est-ce que j'ai été victime? Pourquoi est-ce que je vais pouvoir cesser de l'être? C'est vraiment juste donner de l'argent pour donner de l'argent. Et ça, ça marche pas.
Mais il faut donner de l'argent quand même, non?
Il faut donner de l'argent, mais il faut donner de l'argent pour une raison précise. Il faut donner de l'argent pour des préjudices identifiés, quantifiés, discutés, validés par des experts. Tout ça va pas résoudre tout, mais va au moins permettre aux victimes d'accepter qu'elles sont victimes. Et aussi, évidemment, les aider dans leur vie d'après.
Et vous attendez de l'État, dans la lettre qui accompagne le chèque, d'autres mots que simplement des mots administratifs et techniques?
Exactement. On aimerait avoir affaire à autre chose qu'un mélange d'administration et d'assureur. On aimerait, voilà, une explication.
Et puis, il y a les fausses victimes. Alors, peut-être pour l'argent, peut-être pour autre chose. 21 condamnations ont été rendues à l'encontre de fausses victimes d'attentats. Quel sentiment vous inspire ceux qui usurpent, ceux qui mentent, ceux qui prétendent en être et ne le sont pas?
Ah, il y a un énorme sentiment de dégoût, mais il y a surtout une incompréhension totale. On parlait d'argent à l'instant. Toutes les victimes de terrorisme abandonneraient tous leurs biens pour ne pas être victimes de terrorisme. Et on trouve des gens qui, elles, sont prêts à perdre leur honneur pour faire semblant d'être victimes de terrorisme. C'est tout à fait incompréhensible. Et ça dit sûrement quelque chose de notre société.
Antoine Garapon, sur ces fausses victimes, quelle est votre analyse?
Ça montre à quel point notre ambivalence, à quel point la victime est sacralisée et honnie. Et donc, ça dit à statut enviable, paradoxalement, parce qu'ils sont portés par les projecteurs, et c'est une forme de gloire négative, mais une forme de gloire. Et c'est ça que ça nous dit de notre...
C'est assez vertigineux, quand même.
Parce que la victime...
C'est pas que de l'arnaque. Ça semble plus profond, non, mais plus tordu.
Regardez à quel point nos sociétés, devant cette cette déchéance de l'État et donc du corps glorieux du souverain, cherchent dans le corps souffrant de la victime une manière de refaire société. C'est tout le paradoxe. Et je crois que l'expérience de Life for Paris, c'est aussi une expérience d'avoir recréé une société, comme le disait Arthur. Et finalement, il y a peut-être qu'à des victimes, pas uniquement l'argent, mais attirer l'attention médiatique et retrouver cette chaleur, cette manière de faire société devient attractif.
Et après, la dernière partie du texte s'appelle « Reprendre vie », donc c'est la solution. Qu'est-ce qu'on fait, enfin la solution, entendons-nous, quand on a été victime? Vous dites une phrase qui peut sembler assez naïve et elle est naïve, mais enfin elle est juste, l'amour de la vie est plus fort que tout. Et d'une certaine manière, survivre, ça veut dire vivre doublement, triplement, 10 fois plus que les autres. Si tu veux recevoir ta part de justice, acquiers-la, écrivez-vous, qui pourrait faire une résonance avec aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a une responsabilité de la victime de survivre, en fait, de vivre 10 fois plus que les autres.
Alors c'est sûr qu'il y a une responsabilité de la victime qui ne doit pas basculer dans une injonction à aller mieux trop vite, mais la victime, à un moment, doit accepter que le procès, l'indemnisation ne feront pas tout pour lui permettre de revenir dans sa vie d'avant, et qu'elle va devoir se prendre en main. La grosse difficulté là-dessus, et je lisais une interview passionnante d'Antoine Léris, l'auteur de « Vous n'aurez pas ma haine » récemment, qui disait « J'ai écrit ce texte, et ensuite j'ai voulu être le père le plus parfait pour mon enfant. J'ai voulu vivre 10 fois mieux, 10 fois plus que tout le monde. » Et en fait, c'est pas possible. Et donc, ce que les victimes doivent surtout faire, c'est aimer 10 fois plus la vie, et pas forcément la vivre 10 fois mieux que les autres. Et cette frontière, elle est assez compliquée à comprendre.
C'est une intensité, pas une qualité.
Exactement. Mmh. Et ça fait partie du long processus après. On est obligé de reconstruire toute sa vie hein, quand on a été victime d'attentats. Et la tentation, c'est justement d'essayer de la refaire mieux au lieu de la faire plus intensément.
Mais est-ce qu'on peut, quand on est survivant, vraiment survivre, vivre plus intensément ? Il y a comme une injonction à la force, alors qu'on pourrait aussi faire valoir un droit infini à la faiblesse.
On peut le faire quelques mois, ouais. Mais après, c'est comme un feu de brindille, ça s'éteint assez rapidement. On a plutôt tendance à plus être là du tout. Et retrouver le juste équilibre, c'est très difficile.
Mmh. Il y a donc une expérience commune, Antoine Garapon, entre les victimes et les non-victimes. Quelque chose comme cette éthique dont on parle depuis quelques instants.
Oui, bien sûr, parce que vivre, c'est perdre. Et vivre, c'est surmonter ce que l'on a perdu ou ce que l'on ne pourra jamais conquérir. Et donc, il y a une leçon de vie et notre texte, notre réflexion, notre méditation, comme vous disiez, se termine sur le fait que les victimes ne sont pas qu'une diminution, elles peuvent aussi nous apprendre à vivre, nous qui n'avons pas été victimes, en montrant comment ce dépassement de l'événement, c'est une phrase de Goethe, hein, si tu veux hériter, acquiers-le, eh bien, je crois que c'est une leçon de vie pour nous tous.
Quelle a été l'urgence pour vous d'écrire ce texte aujourd'hui, de réfléchir à la question de la victime, au-delà des victimes des attentats, puisque vous en êtes, Arthur Desnouveaux? Est-ce que la victime aujourd'hui est partout dans la société? On a l'impression que tout le monde est victime, que les minorités se font entendre parce qu'elles sont victimes. On l'a vu encore dans l'actualité hier, par exemple, avec la marche contre l'islamophobie. Tout le temps, il y a la notion de « je suis victime ». Est-ce que ça vous questionne?
Ce qui me questionne surtout, c'est « je suis victime, donc je suis légitime ». Voilà, moi c'est une des choses qui m'a le plus choqué, c'est que j'ai été invité partout pour parler d'islam, des guerres au Proche-Orient, de la politique étrangère française, récemment pour parler des Kurdes. Moi je me suis fait tirer dessus au Bataclan, ma légitimité n'est pas là du tout. Et en fait, les victimes sont une source de légitimité, politique maintenant, qui est extrêmement gênante. Surtout qu'en fait, c'est pas les victimes qui s'expriment le plus, c'est quand même les politiques. Moi, j'avais été très étonné d'entendre le président Macron ouvrir le G7 en faisant référence au contexte sécuritaire et aux attentats du 13 novembre. Voilà, à toutes les sauces, maintenant, si on veut avoir un propos fort, il faut rappeler les victimes.
Comme si le fait d'être victime, la victime était aujourd'hui devenue une modalité de la citoyenneté.
Exactement.
Tout à fait, et une mauvaise modalité. Elle est partout, mais elle est mal placée, elle n'est pas à sa place, parce que notre credo, c'est que la victime n'a de valeur que dans son dépassement. Quand le dépassement de cette condition, et ça ne peut être qu'une condition temporaire qui doit avoir pour horizon précisément non seulement le retour de la vie, mais une intensification de la vie.
Allez, on ouvre le dialogue avec les auditeurs de France Inter. Bonjour Sarah.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour. Merci. J'avais une question en tant qu'étudiante en droit qui m'interpellait beaucoup. La question de la victime à l'ère du procès MeToo, de son dévoiement peut-être, qu'en pensez-vous? Voilà, merci.
Merci Sarah. La victime dans le contexte MeToo, qui veut répondre, que pensez-vous de l'extension donc de la notion de victime dans le contexte MeToo, des violences faites aux femmes?
Eh bien, je crois.
Et la question du procès
Sarah,
médiatique.
Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement quand vous parlez de dévoiement? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Bah, en fait, il n'y a pas de procès au sens judiciaire du terme. Il y a des procès médiatiques, des procès d'intention, et on peut vite parler de quelqu'un en tant que victime sans avoir véritablement engagé d'enquête, sans avoir véritablement eu de certitude. Donc, qu'est-ce que vous en pensez justement de ça, de cette précipitation parfois, de ce côté hâtif finalement?
Voilà, Sarah, donc, qui est étudiante en droit, hein, rappelons-le. Antoine Garapon, monsieur le magistrat, vous répond.
Je crois que la MeToo, c'est pour l'instant une instance d'accusation. C'est une initiation d'un processus de justice. C'est certainement pas la totalité de ce processus. La victime, c'est le début de quelque chose. C'est le sens de ce qu'on a voulu écrire. Et donc, ce que MeToo, qui pour moi est un phénomène globalement positif, voire très positif, en ce qu'il inaugure de nouveaux rapports sociaux, ça ne peut être que le début d'un processus. Vous êtes étudiante en droit, l'action en justice, c'est précisément le sens que ça veut dire. On initie un procès dont on ne connaît pas l'issue et dont la suite de ce procès devra être une augmentation de la justice pour tous.
Oui, mais quand vous écoutez Adèle Haenel, par exemple, elle dit « Je n'ai pas pensé à aller en justice et je ne veux pas aller en justice, d'ailleurs parce que je n'ai pas confiance en la justice, parce qu'elle nous ignore. » Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Alors, je réponds, ça m'interpelle en tant que juge, savoir pourquoi. Ah oui. Et je lis d'ailleurs l'enquête de l'Express qui montre qu'il y a cette perte de confiance dans la justice qui est très préoccupante. Mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'accusations errantes. C'est pire que tout. Les accusations doivent trouver une instance sociale, une instance institutionnelle. Parce que si
pourquoi
on
c'est pire que tout?
C'est pire que tout parce que l'accusation réveille des pulsions sociales, réveil de l'envie, réveil de la violence potentielle. Et donc, si on a, au cours de la sagesse millénaire, créé un procès, cette cérémonie de parole, c'est précisément pour déplacer et épurer cette violence et la transformer en un renforcement du lien social. C'est ça le sens profond de la justice. Et donc, on est dans une période, notre société est dans une période de transformation, de crise dans le sens de transformation, et il faut qu'elle retombe un jour ou l'autre sur ses pieds. Du moins, c'est ce qui me semble une ardente nécessité.
Au standard, Patrice nous attend. Patrice, vous êtes, je crois, psychothérapeute.
Oui, je suis psychothérapeute, excusez-moi, et non pas psychanalyste. Donc voilà, il existe, et je le pratique, le EMDR, c'est-à-dire un système de désensibilisation et de resensibilisation par des mouvements alternatifs devant les yeux, qui fait
c'est une forme d'hypnose, je le dis en termes profanes.
Si on veut. Ça rejoint plutôt le REM qu'il y a durant les rêves pendant la nuit.
LREM ?
Non, ça c'est un groupe.
C'est un rêve.
Voilà, alors allez-y Patrice, est-ce que vous avez une question à poser ou quelque chose à partager ?
Le EMDR permet d'enlever la souffrance d'un choc traumatique. C'est-à-dire quand vous voyez un accident, par exemple, violent, le fait de passer par le EMDR fait que ça devient plus un fait, mais ça devient comme si vous aviez vu ça à la télévision ou au cinéma. J'ai soigné une amie qui a vécu le 14 juillet de Nice, donc elle ne dormait plus de la nuit, et avec 4 séances de EMDR, maintenant, il n'y a plus de problème.
Merci Patrice pour ce témoignage qui, j'imagine... rejoins vos propos, Arthur, de tout à l'heure sur la manière dont vous vous êtes soigné. Arthur, des nouveaux.
On a eu beaucoup de retours d'expérience sur le MDR et le brain spotting, extrêmement positifs de la part des victimes. Beaucoup moins spectaculaires que 4 séances et tout est oublié, souvent plutôt couplé avec une prise de parole dans le cadre d'une autre thérapie. Mais c'est quelque chose que l'État regarde actuellement avec le centre de résilience, et c'est très important d'aller un peu vers ces thérapies alternatives.
Le terrorisme a conduit les États à activer ou à réactiver les législations d'urgence, à multiplier les lois, à se doter d'outils pour prévenir et punir, quitte à ce que ces législations servent à autre chose. C'est ce que soulignait François Sureau dans Le Tract, qui est la même collection que la vôtre. Le Tract qu'il a publié avant vous, une partie de l'arsenal antiterroriste a été mobilisée pendant la crise des Gilets jaunes et se paye d'un recul des libertés publiques. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous dites que François Sureau n'a pas raison et que peu importe la liberté, au fond, c'est la sécurité qui prime.
Antoine Garapon.
Alors, je crois qu'il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Le problème, c'est qu'on est rentré dans une configuration de la violence qui est tout à fait différente, notamment avec le terrorisme endogène. Donc, ce que dit François Sureau, et je souscris absolument à ce propos, c'est l'idée que la liberté doit rester au centre de nos institutions, en même temps qu'il faut trouver d'autres formes de réaction et de lien social de nature à nous protéger. protéger collectivement d'un risque et du risque de du terrorisme endogène. Je crois que le terrorisme, c'est la figure de notre propre question. La signification du terrorisme ne peut pas s'arrêter à un passage à l'acte violent. Il est le signe de ce que notre société et notamment le lien social contemporain en France et manifeste une certaine souffrance.
Merci messieurs, on en reste là. Arthur Desnouveaux, Antoine Garapon, Victime et après, point d'interrogation, est donc publié chez Gallimard dans la collection Tract.
Passionnant,
on en recommande vraiment très chaleureusement la lecture à nos auditeurs. Merci messieurs d'avoir été au micro d'Inter ce matin.